Alors, j'avais parlé moi aussi de Pierre Sanges, parce que le désastre, Pierre Sanges connaît. Déjà dans son premier roman, Veuve au maquillage, un homme qui va en finir choisit de se faire tuer peu à peu par 6 veuves homicides qu'il séduit à leur sortie de prison et qu'ils découperont lentement en rondelles. Ruine de Rome, bon, on en a entendu parler tantôt par Marie-Hélène, raconte l'histoire d'un petit fonctionnaire qui veut provoquer l'apocalypse dans sa ville en faisant pousser des fleurs, des plantes, des arbres qui subrepticement détruiront l'environnement créé par l'homme. Alors, c'est une apocalypse lente, je le rappelle simplement parce que ça permet au narrateur d'utiliser cette formule oxymoronique qui est, à mon avis, l'une des plus extraordinaires que j'ai lues. Il veut créer, je cite, une apocalypse par moments soporifique à force d'être pondérée. C'est extraordinaire. Dans son roman Sort l'assassin, entre le spectre, le narrateur, convaincu d'avoir été Macbeth, qui est déjà une belle métonymie du désastre, part à la recherche de témoins pour lui permettre de confirmer sa forte intuition, etc., etc. Alors, si le désastre apparaît omniprésent, les textes, et en particulier littéraires, le sont autant. Présence donc des textes, le narrateur de son premier roman est commis aux écritures, ce qui est déjà un signe indubitable, hein? Il s'est commis à l'écriture. Je viens de faire allusion, on a fait allusion à propos de Ruines de Rome à la Bible, j'ai fait allusion aussi ici à Shakespeare. Un autre de ses romans, La Réfutation majeure, repose sur un manuscrit trouvé et traduit d'un homme de cour espagnol au 16e siècle qui veut convaincre le roi que l'Amérique n'est qu'une invention créée par des marchands pour leur profit. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on sort du roman et on le croit. Étude de silhouette est une reprise d'ébauche de texte d'incipit laissé par Kafka et que Pierre Sanges complète en créant à partir de là de courtes histoires. Fragment de Lichtenberg raconte sur une période de 100 ans l'histoire d'une secte, les Lichtenbergiens, convaincu que l'ensemble des 8100 aphorismes de Lichtenberg forme en réalité un roman caché, fragmenté, qu'il cherche à reconstruire comme s'il s'agissait de pièces d'un improbable puzzle. Alors, son dernier récent roman dont je parlerai, Akab Sekel, Sekel entre parenthèses, réunit de manière spectaculaire ses deux principaux vecteurs de son œuvre, la littérature et le désastre. Reprenons la célébrissime formule de Marx dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte. Tous les grands événements et personnages historiques se répètent, pour ainsi dire, deux fois. La première fois comme tragédie, la seconde comme farce. Ici, nous avons droit au retour de Moby Dick et surtout d'Akab dans un étrange pas de deux. Et il est vrai que la tragédie shakespearienne que représentait le roman Moby Dick, Melville l'a écrit alors qu'il est en pleine lecture et relecture de Shakespeare, verse souvent carrément dans le slapstick. Pouvons-nous pour autant parler d'une perspective critique? Car l'esprit du texte de Marx se situait bien sûr dans cet esprit à l'égard de Louis Bonaparte, avec la référence claire dans le titre à Tonton. Le livre paraît la même année que Napoléon le Petit, Victor Hugo, titre proposant une autre référence à l'oncle illustre. Alors, je ne pense pas pour autant qu'il s'agisse dans ce roman d'une critique, au sens, par exemple, où il s'agirait de ridiculiser le roman de Melville ou de démontrer que la culture aujourd'hui ne peut que ressasser son passé et, en ce sens, ne serait plus à la hauteur de ce qu'elle a pu produire. Hein, cette critique, comme vous savez sans doute, a déjà été adressée au Ulysse de Joyce, qui se présenterait comme une spectaculaire catastrophe face à Homère. Ulysse n'est plus qu'un Dublinois ordinaire qui vend de la pub, Télémaque un pigiste sans trop de ressources, et Pénélope une chanteuse sur leur tour qui accueille ses amants dans son lit pendant que son mari travaille. L'inverse de l'original, donc, qui tenait justement les prétendants à distance, je le rappelle, pendant 20 ans, ce qui démontre un sens de l'éthique quand même auquel on est très attaché. Mais on sait bien aussi que le roman de Joyce ne se limite pas, loin de là, à un simple pastiche de l'Odyssée. Et de manière similaire, si on peut oser la comparaison, Akab Sekel est bien davantage qu'un pastiche, plutôt une relecture qui ouvre des possibles, comme chez Joyce, et une relecture qui ne se contente pas d'adapter le roman à l'ère moderne. Alors, je vais me pencher d'abord sur la définition du mot « séquel » qui est dans le titre. Pour commencer, je m'arrêterai sur l'homonymie, hein, ironique sans doute, et que je n'imagine pas relever du hasard, entre le mot « séquel » et l'anglais « sequel », qui veut dire « suite ». Alors évidemment, « séquel » ne veut pas dire « suite », mais comme le roman de Sanges réfère à un ouvrage américain de fiction, donc de langue anglaise, il est difficile de ne pas lire une sorte de connivence, un clin d'œil au mot dans son acception anglo-saxonne. Sequel est aussi une sequel, c'est-à-dire une forme de suite à Moby Dick. En français, du point de vue médical, une sequel est une lésion qui persiste après la guérison d'une maladie ou d'une blessure. D'une certaine manière, une trace du désastre. La sequel signale un symptôme, un handicap. Achab en a un bien connu dans la diégèse du roman de Melville, qui est régulièrement repris chez Pierre Sange, presque comme un running gag. Il s'agit de sa fameuse jambe perdue, avalée par la baleine. Ce qui persiste par ailleurs, c'est bien le fait qu'on ne parvient pas à sortir de Moby Dick, à lui échapper. Cette figure hante l'imaginaire occidental. Achab, c'est qu'elle, et j'en viens à une autre définition possible du mot, apparaît comme le contre-coup, la conséquence, d'une certaine manière, inévitable, du roman de Melville. La baleine et son persécuteur ne peuvent que ressurgir à intervalles réguliers. Ces définitions sont connues. Il y en a une autre, cependant, plus ancienne, vieillie et littéraire, qui consiste à définir le mot comme une suite de gens ou de choses attachées à quelqu'un ou à quelque chose. Par exemple, « on l'a chassé, lui et sa séquelle ». Le roman de Pierre Sange répond aussi à cette définition, et je dirais qu'on peut trouver là l'épicentre du désastre tel qu'il s'expose dans « Achab, séquelle ». Achab est rattaché à une vaste tradition qui l'accompagne, j'y reviendrai. Alors, il est temps d'essayer de résumer ce roman. Je retardais ce moment parce que répondre à cette requête est à peu près impossible. Dans ce livre somme, il s'agit de faire le tour de l'idée d'Achab comme Moby Dick faisait le tour de l'idée de la baleine. Nous passons du concept baleine au concept Achab. Mais Moby Dick n'est jamais loin, surgissant comme une ombre, une grosse ombre, mettons. Ce sont donc dans ce roman toutes les potentialités d'Achab qui sont évaluées, je dirais même exténuées, car il s'agit d'aller au bout du désastre, de foncer dans chacun des cul-de-sac, d'aller frapper les murs, de tomber sanglant et de s'épuiser à force de redire, de reprendre, de donner le vertige au lecteur. Ce n'est pas un livre pour lecteurs paresseux. Le roman de 595 pages est accompagné d'une table de matière de 29 pages qui résume en quelques lignes chacun des 254 fragments, je les ai comptés, plus un épilogue qui, lui, n'est pas résumé. Alors, les résumés de ces fragments énoncent parfois des faits ou en explicitent certains qui ajoutent des informations au corps du texte. Ainsi, dans l'un d'eux, on peut deviner Buster Keaton, mais c'est dans le résumé que son nom est explicitement évoqué. Buster Keaton, car oui, il sera beaucoup question de cinéma. Le roman promène son lecteur, sans ordre chronologique toujours clair, des aventures marines d'Achab à son métier de comédien shakespearien à Londres dans sa tendre jeunesse, des petits boulots qu'il accomplira pour survivre à New York, notamment garçon d'ascenseur, jusqu'à ses séjours en Californie, à Hollywood en particulier, où on ne cesse de chercher quelqu'un, scénariste, réalisateur, comédien, qui parviendra à faire en sorte que Moby Dick soit propulsé sur les écrans. Dans ce roman qui traverse terres et mers, et même question du Faubourg Amelas à Montréal, c'est dire, le temps est fort élastique. Parfois, des dates apparaissent dans les marges. 1857, à côté du fragment intitulé « Achab le jeune débute dans la carrière » de comédien. 1904 pour « Monologue sur le Pécode à propos d'une ville de 12 millions d'âmes ». 1934 pour « Une lettre de Cole Porter à Alan Broderick ». 1967 pour « De la routine » ou « Les paisibles entrefaites du capitaine Achab ». Ou encore, et là ça va un peu de soi, 1962 pour « Le vieux capitaine fait le constat de sa longévité ». On cherchait pourtant en vain une ligne narrative très claire, même s'il existe des nœuds temporels, hein, par exemple autour du séjour à Londres, à New York, sur la mer, à Hollywood. Ces périodes relativement circonscrites sur lesquelles on revient, puis dont on s'éloigne, servent plutôt à marquer l'importance des métamorphoses d'Achab. Parmi bien des noms qui apparaissent dans ce roman, on ne voit pas celui d'Ovid, et on pourrait presque poser l'hypothèse d'un acte manqué, parce qu'Achab est une figure en perpétuelle métamorphose. Si dans Moby Dick, le roman de Melville, la baleine est souvent de fois comparée au Léviathan, Achab peut ici être comparé à Protée, cette figure marine en mesure de se transformer comme bon lui semble. Protéiforme, Achab est un monstre et littéralement une figure désastreuse qui canalise et cristallise les cataclysmes. Et dirais-je surtout, qui est associé tout au long du roman à diverses formes de spectacularisation du désastre, sur lesquelles je reviens dans quelques minutes. Il est évident que Achab Sekel relève de ces fictions transfuges dont traite Richard Saint-Gelais dans son livre éponyme pour analyser le contexte de transfictionnalité. Je le cite, « La relation transfictionnelle la plus simple et à coup sûr la plus courante consiste à proposer une expansion d'une fiction préalable à travers une transfiction qui la prolonge sur le plan temporel ou plus largement diégétique. » Il ne s'agit pas, dans le cas qui nous concerne, d'une banale suite, mais d'une transposition qui vient ébranler l'image d'Achab telle qu'on la connaît chez Melville, d'où l'aspect souvent comique que provoque le roman. Mais Pierre Sanges investit la transfictionnalité d'une manière assez rare. Comme l'écrit Saint-Gelais, il existe, pour utiliser les termes anglais, les « sequels », nous revenons à ce terme, et les « prequels », les premières prolongeant le récit vers son aval, les secondes vers son amont. L'une continue le récit, l'autre, beaucoup moins fréquente, va en quelque sorte à contre-courant du récit. Ce dernier exemple, Charles Saint-Gelais, ce dernier exemple a quelque chose d'étrange, comme si c'était moins un interdit qu'un impensé qui se voyait ainsi remis en question. Le cas de Achab Sekel a ceci de troublant qu'il fait non seulement l'un et l'autre, mais qu'il produit en plus un récit parallèle. Oui, Achab était bien sur le Pequod, en quête de la baleine, mais il ne l'a pas tué et il a lui-même survécu. Il en résulte cet effet étrange, la catastrophe de Moby Dick. Le désastre attendu qui se produit à la fin du roman de Melville, c'est-à-dire la destruction de tous, à l'exception d'Ishmael le narrateur, n'a pas lieu ici. Cette histoire-là finit bien, même si elle ne se trouve pas dans les faits à la fin du récit, mais plutôt au début. Mais dès lors, cette finale dévoyée, heureuse, ouvre la porte chez Pierre Sanges à une foule d'autres désastres, en génère et en régénère d'autres. Et puisqu'il s'agit à la fois de sequels et de prequels, les références aux événements et aux personnages catastrophiques se fait à la fois en amont et en aval du cadre temporel dans lequel se déroulait Moby Dick. Mais comme j'indiquais, la temporalité est pour le moins élastique, ce qui permet même au narrateur d'écrire que Bossuet est un précurseur de Jules Verne, ce qui est quand même assez gonflé. Comme autant de doubles de Achab, il y a donc ces séquelles, mot que j'utilise cette fois dans son sens vieilli, ces individus ou ces figures littéraires qui, de Don Quichotte à Francis Scott Fitzgerald, l'accompagnent d'une manière ou d'une autre et évoquent un désastre. Don Quichotte, Cervantes lui-même a écrit d'ailleurs un sequel, un tome 2. Don Quichotte, l'homme qui évoque la folie, l'échec, le ridicule achevé, figure même de l'idéalisme abstrait, pour reprendre les catégories de Lukács, où le héros se heurte bêtement à la complexité du monde, parce qu'il a une conscience trop étroite des choses. Encore un cul-de-sac, encore un mur sur lequel on vient s'abîmer. Fitzgerald, à qui on demande, en désespoir de cause, parce qu'on ne sait plus à quel saint se vouer, d'écrire le scénario de Moby Dick pour Hollywood. Fitzgerald, qui représente de manière idoine la formule « plus dur sera la chute », le brillant écrivain encensé et admiré dans les années 20, riche, célèbre, époux d'une femme magnifique à la personnalité éblouissante, bref, la représentation même de « l'American Dream », qui meurt ruiné, oublié et alcoolique en 1940 à 44 ans, alors que Zelda, sa femme, meurt dans l'incendie de l'hôpital psychiatrique où elle est enfermée depuis des années, 7 ans plus tard. Parmi la séquelle des personnages qui entourent Achab, voici deux figures clés. Je les choisis aussi à dessein, dans un cas, un personnage de fiction, Don Quichotte, dans l'autre, un individu réel, Fitzgerald. Ces frontières n'existent pas dans ce roman où la fiction se trouve tout aussi bien dans le texte que dans le hors-texte. La littérature se découvre et s'analyse dans le texte comme elle se déploie dans la vie littéraire. De quoi réconcilier les deux pierres, Bourdieu et Zima. Mais au bout du compte, tout s'abolit dans le texte qui devient l'expression et le miroir déformé de la réalité. C'est Zima qui gagne. Jetons un coup d'œil sur quelques autres exemples de représentations désastreuses qui accompagnent Achab. Enfant, il relit sans cesse la Bible pour comprendre le genre humain, et ce qui l'arrête, ce sont des scènes et surtout des figures désastreuses. Job d'abord, je cite. Les malheurs, l'injustice, les deuils, les lamentations, Dieu cinglant dans ses répliques, Dieu clouant le bec des hommes, Dieu se faisant irrétorquable, et en face de lui, Job le malingre, malingrement vindicatif, Job qui ébauche un vermisseau de reproches, mais qui se désagrège en reprochant et dévoile comme on se dénude sa défaite intellectuelle chaque fois qu'il prononce la première syllabe d'une accusation. Là, le jeune Achab en est certain, se trouve une clé de la manière de vivre parmi les hommes, pas trop profondément enfouie sous le fumier. Bref, ça va mal. Puis il y a Noé, l'homme du déluge, ça va encore mal, Noé le charpentier mal aimé. Le bateau de Noé, alourdi encore par son absurde forme carrée incompatible avec l'art de naviguer, est malmené par l'incompétence de Noé qui n'a jamais été Ulysse. Décidément, les héros sont fatigués et font gaffe sur gaffe. En grandissant, abandonnant la Bible, Acab part pour Londres pour devenir comédien, mais surtout pour jouer Shakespeare. Shakespeare présenté comme un ancien boucher, une filiation naturelle quand on connaît les carnages qui émaillent ses pièces. Acab veut toutes les jouer. N'importe quel rôle de n'importe quelle pièce, elles lui plaisent toutes, pourvu qu'il y ait au moins un mort. Et cette mort, Acab en soit témoin. Il tient à interpréter ces morts qui, par anticipation, remplaceront celles qu'il ne connaîtra finalement pas par la gueule de la baleine. Je cite encore. Finir humble, écarbouillé, réduit à rien comme Richard III. Finir comme Hamlet, plus raplati encore, misérable et ridicule, choisissant le ridicule pour remède à toutes ses impossibilités. Il se le promet. L'ensemble de ces agonies interprétées par Acab le jeune sur une scène seront des morts infligées à lui-même, théâtralement. Théâtralement. Acab se pose en figure spectaculaire, faisant de sa propre histoire et de ce qui le lie à la baleine qu'il adore haïr, la mise en scène d'une catastrophe. C'est en passant par Hollywood que cette spectacularisation se fera de la manière la plus dense et la plus intense. Moby Dick, la baleine, le roman, a ce qu'il faut pour représenter un immense succès à l'écran. L'échec sera d'autant plus cuisant, le désastre d'autant plus notoire. À Hollywood, la volonté de reproduire cette tragédie conduit en soi au désastre. Par moments, on ne peut que songer à Aguirre la colère des dieux d'Herzog, même s'il n'y a pas de tournage et qu'on ne sort pas des bureaux d'Hollywood. On pense à Aguirre à la fois pour le désastre spectaculaire évoqué dans le scénario lui-même, mais aussi pour le désastre du tournage. Dans une scène d'anthologie au cours d'un documentaire sur Werner Herzog intitulé « Ennemis intimes » que je vous suggère de voir dès que vous pouvez, on voit et entend le cinéaste dire qu'il n'a rien contre Klaus Kinski, mais que plusieurs fois dans sa vie, il aurait eu énormément de plaisir à le tuer de ses propres mains. Hollywood donc. Mais attention, Hollywood après Broadway, un autre désastre à la mesure de la taille de la bête. Tous sont enthousiastes, et on se dit que les aventures de la chasse à la baleine vont faire pâlir le succès de Porky and Bess, qui aura l'air d'un travail d'amateur. Encore faut-il faire entrer sur scène l'immense poisson. Pour Acab, c'est une ineptie, surtout quand on sait, je cite, qu'un rorqual commun, par exemple, doit avoir sa ration chaque jour de 2 millions de crevettes roses. Où les trouver? Chez qui se fournir? Chez Schwartz? Bien sûr, rapidement, personne ne pense à faire monter sur scène une vraie baleine, mais une armature et une toile blanche qui nécessiterait 12 machinistes pour la mettre en branle. Tout cela est quand même bien compliqué, et plus la production s'annonce spectaculaire, plus on s'empresse, à chaque fois, de vouloir la réduire, comme la fois où, je cite, « on renonce à mettre en scène les batailles navales, surtout pour des questions de sécurité, et où quelqu'un a l'idée de remplacer la baleine par un poisson dans un bocal, un poisson exotique. » Alors, cap sur Hollywood, ça ne peut être pire, mais alas, alas, pour Yorick, restons shakespeariens, il est toujours possible d'empirer les choses. À Hollywood, encore plus qu'à Broadway, les échecs vont être à la hauteur des espoirs. Hollywood va tuer cette adaptation dans l'œuf. Plusieurs s'essaieront pourtant, et non des moindres, j'ai mentionné Fitzgerald, ajoutons Cecil B. DeMille, P.G. Woodhouse. À la 9e mouture, on propose un scénario où Acab serait une sorte de nouveau Scarface. Comme scénariste, on pense même à Mae West, celle de qui on a dit, je cite, « elle remplit à elle seule le corsage d'Hollywood ». Pour jouer Acab, on pense à Spencer Tracy, à Buster Keaton, pourquoi pas, à James Cagney, puis plus tard à Orson Welles comme scénariste, réalisateur, pour jouer Acab, puis on lui propose même le rôle de Moby Dick. Mais bon, on le sait, Orson Welles à Hollywood et le désastre, c'est kiff-kiff. Pas besoin de refaire l'histoire, elle est triste, et même 30 ans après la mort de Welles, ça fait encore mal. Qui encore? Ben, tout le monde. Tiens, si on regardait du côté des Allemands ou des Autrichiens expatriés, Erich von Stroheim, à qui on pense, Ernst Lubitsch, bien sûr, il aurait pu en faire une sapré comédie, puis ensuite Billy Wilder à la réalisation et Cary Grant pour le rôle, beau comme beau potentiel, on voit même passer Zsa Zsa Gabor, on ne sait pas trop ce qu'elle fait là, rien n'y fait, les échecs ne font que se multiplier, Moby Dick échoue. Je m'excuse pour celle-là, c'est un peu facile, mais c'est un peu inévitable. Bon. On pouvait le sentir très tôt, cependant, dès le début de l'incursion d'Acab à Hollywood. On pourra décrire l'échec du capitaine à Hollywood d'après les échecs des autres, de prodigieuses déchéances qui ont fait l'histoire du pays, et d'après ces milliers de films non aboutis dont on a recueilli le récit en marge sur la rive, des histoires de réalisateurs virés entre la prise 1 et la prise 2, histoires de stars du muet confrontés à un microphone, histoires de producteurs changeant d'avis, perdant la foi ou perdant le goût, ou histoires de vedettes mortes au premier jour du tournage, le cœur dans un flacon d'alcool, ou histoires de décors brûlés, de scénarios maudits, etc., etc., etc. Acab Sequel est aussi l'histoire de l'envers des splendeurs d'Hollywood, une déconstruction du mythe. Moby Dick, je le rappelle, a souvent été baptisé premier Great American Novel, mais n'est-il pas lui-même un roman qui, dès 1851, déconstruit le mythe de la grandeur du pays au moment de la colonisation sauvage de l'Ouest et du massacre des Amérindiens, et dont Hollywood fera souvent la propagande à travers ses représentations d'Indiens débiles. Alors, je rappelle quand même qu'à la fin de Moby Dick, ça se termine quand l'aigle royal, symbole des États-Unis, s'approche du mât du Pequod qui est en train de couler, et c'est un Amérindien qui se trouve à le tuer en le clouant sur le mât. Ainsi, Acab Sequel est aussi, à travers un de ses personnages emblématiques, une plongée dans l'imaginaire des États-Unis, pour le meilleur et pour le pire. Et pour conclure, on s'étonnera parmi tous ces noms hollywoodiens dans le roman de ne pas trouver celui de John Huston, qui pourtant tourna vraiment une adaptation de Moby Dick, film dans lequel joue d'ailleurs Orson Welles, mais seulement pour le petit rôle du père Maple. Peut-être est-ce dû au fait qu'il existe, comme on l'a dit souvent, une véritable thématique de l'échec chez les principaux personnages qu'on retrouve dans les films de Huston, et que les échecs ou les désastres sont assez nombreux comme cela dans le roman. À moins que ce soit autre désastre, le fait que Gregory Peck joue le rôle d'Acab dans le film, un des pires miscastings de l'histoire du cinéma, franchement, j'aurais davantage voté pour Buster Keaton.